Bonjour et bienvenue dans Les Agités en Vadrouille. Les Agités en Vadrouille, c'est le podcast de la communauté Agito dans lequel on vous partage les formations qu'on a pu suivre, les rencontres qu'on a faites ou les divers événements auxquels on a pu participer. Et pour ce numéro, je vais vous parler d'une formation que j'ai suivie au FIAF de New York. Le FIAF, c'est l'Alliance Française, c'est French Institute Alliance Française de New York. Une formation animée par Adrien Payet et organisée par Christophe Moureau. Merci Christophe. Christophe, c'est le responsable des cours de l'Alliance Française de New York. Et cette formation portait sur les activités pour les grands débutants. Alors au sommaire, on fera d'abord un petit retour avec Pauline. Pauline, c'est une de mes collègues et elle a assisté à la formation avec moi. Et tous les deux, on va se faire un petit retour sur ce qu'on a vécu lors de cette formation. Et puis ensuite, on écoutera Adrien Payet. Adrien Payet qui est auteur, il est acteur, il est prof de FLE, il est formateur de formateurs. C'est lui qui est le papa de Drama FLE, les télésimulations. Et avec lui, on parlera de sa formation et il répondra à mes questions. Un grand merci donc à Christophe, un grand merci à Pauline, un grand merci à Adrien, parce que Pauline et Adrien ont bien voulu répondre, comme d'habitude, à la fin de la journée de formation, donc quand tout le monde est bien fatigué. Donc ils ont bien voulu répondre tous les deux à mes questions et je les en remercie beaucoup. Et on va tout de suite écouter le retour de Pauline. Alors aujourd'hui, pour parler de la formation animée par Adrien Payet sur les activités pour les débutants, je reçois Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Sébastien.
Alors Pauline est prof de FLE avec moi, c'est une collègue, et tous les deux on a suivi cette formation. Qu'est-ce que t'en as pensé toi?
J'appréhendais un peu parce que je faisais toute une journée de formation, ça fait quand même assez lourd, et finalement j'ai beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. La manière dont il a conduit sa formation, j'ai trouvé ça très dynamique. Je me disais on va revoir des choses vraiment basiques, enseigner à des débutants. Je pense que je maîtrise assez, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je maîtrisais pas très bien, c'est-à-dire l'apport du physique dans l'approche pour apprendre des notions grammaticales, par exemple, le fait de pas hésiter à encourager nos apprenants justement à utiliser leur corps. Je trouve qu'on s'auto on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on s'auto-réfrène par rapport à notre public en disant ils vont pas accepter, ils vont pas s'engager dans ce genre d'activité. Et je me suis dit qu'il fallait oser. Et vraiment, cette formation, pour moi, c'est me dire je vais essayer d'oser un petit peu plus ce genre de pratique plus active. Alors, je pense à plusieurs activités qu'Adrien nous a présentées. Celle que tu as déjà suivie, je pense, pour la formation sur le théâtre.
On avait suivi une formation qui là était uniquement axée sur les activités théâtrales en classe. Et effectivement, on avait cette même impression, des fois, cette peur de faire une activité parce qu'on pense que nos apprenants ils seront pas réceptifs.
Exactement.
Alors que nous, en tant que prof, on les fait finalement.
Voilà. Et ce que je te dis aussi, je pense que c'est vraiment aussi la peur que l'apprenant n'ose pas s'engager dans l'activité. Mais je pense que c'est aussi nous qui avons une sorte de zone de confort dans laquelle on est bien tranquille avec nos activités, bien cadré, etc. Et parfois, on a peur de sortir de cette zone de confort et se mettre un petit peu plus en représentation, plus en danger peut-être face à nos apprenants. Et ça, je pense qu'il faut casser ces barrières. Et c'est vraiment ce qu'Adrien a répété à plusieurs reprises et que je pense que le message est bien passé.
Ouais, et puis tous les deux, ça fait plusieurs années maintenant qu'on enseigne. Et c'est vrai qu'on a toujours notre petite valise d'activités qui marche. Et on ne voit pas trop de raisons de finalement en sortir. Et donc là, le fait d'avoir le contact avec Adrien, mais aussi d'échanger avec les collègues, ça nous permet de dire, tiens, c'est vrai qu'on pourrait varier un peu plus encore, alors qu'on pense peut-être déjà de varier, ce qui finalement n'est pas toujours le cas.
Et puis, je voudrais ajouter aussi, j'ai particulièrement apprécié la configuration de la formation, parce que il y avait de vrais apprenants de l'institut qui attendait sagement dans une classe pendant qu'Adrien nous présentait certaines activités Adrien a proposé par la suite à certains d'entre nous d'aller tester tout de suite à chaud les activités qu'il nous avait proposées et donc le reste du groupe visionnait ce que les courageux enseignants faisaient donc dans la classe, et via Skype on pouvait communiquer. Donc j'ai trouvé ça vraiment audacieux en termes de technique de formation de formateurs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Ouais, c'était vraiment bien. Et puis après l'opportunité aussi d'échanger avec les apprenants qui avaient vécu les activités, ouais. Demander si ça avait été utile pour eux, la perception qu'ils avaient eue des activités, c'était intéressant aussi. C'est un truc que moi je fais pas beaucoup en classe, leur demander comment ils ont vécu une activité, et c'est vrai que c'était pas mal. Alors après ce week-end, donc lundi on retourne en cours, tu vas tenter de mettre des trucs, peut-être pas lundi mais plus tard dans d'autres cours, il y a des activités que tu as envie de reprendre?
Alors je pense, parce que là donc bon, on est en cours de trimestre, donc et je vais pas avoir de nouveaux groupes débutants ce trimestre, en plus j'ai que des niveaux plus avancés, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'était donc les intelligences multiples. Adrien en a parlé, et c'est vrai que ça me fait réfléchir sur comment amener l'apprenant à se poser ces questions sur sa manière d'apprendre, sur ce qu'il préfère. Et là, il y a plusieurs choses qui ont été proposées. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais creuser. Et je pense aussi que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire seulement en début d'apprentissage, mais ça peut être fait avec un groupe de débutants à plusieurs moments au cours du trimestre ou de la durée du cours, en fonction de... Parce que je pense pas que je pense qu'on est aussi, enfin les apprenants, ça bouge, c'est mouvant. On n'a pas une manière d'apprendre, ça va être en fonction de plusieurs activités qu'on aura plusieurs intelligences qui vont être sollicitées. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est ponctuel.
Ouais, donc dans les préparations de cours, essayez de garder à l'esprit que je diversifie non pas seulement pour rythmer le cours, mais aussi pour répondre un peu à tous les profils que je peux avoir devant moi.
Et qu'un apprenant peut avoir des profils, des intelligences diverses en fonction des activités, et que je pense que ça, on peut développer un type d'intelligence, on n'est pas figé, ouais. Je pense aussi.
Ouais, tout à fait. Merci Pauline pour ce retour.
De rien Sébastien, au plaisir.
Et on se retrouve lundi.
Ça marche.
Et voilà, alors merci Pauline pour ce retour, c'était très sympa de ta part d'accepter de participer au podcast, et puis maintenant on va écouter Adrien. Alors après cette journée de formation, eh bien je reçois le formateur, donc Adrien Payet. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors Adrien, hein, il est auteur, il est professeur de FLE, il est comédien, il est formateur de formateurs. On le connaît pour tout son travail autour des activités théâtrales et puis du projet Drama FLE avec les télésimulations. Et puis là, aujourd'hui, c'est la deuxième formation que je suis avec toi. Une formation qui était pas directement sur le théâtre, mais qui était sur les activités pour les débutants dans l'enseignement du français langue étrangère. Tu peux nous donner un peu le programme de la journée?
Alors débutant adulte aussi, et débutant adulte vivant aux États-Unis, notamment à New York. Le programme, dans un premier temps, c'était justement de définir ce public, les particularités de ce public. Donc là, on a sorti des mots-clés, peut-être pressé, ambitieux, frustré parfois de vouloir apprendre vite, et un peu consommériste aussi, mais aussi ouvert, intéressé par la culture, par la langue. Ça, c'était la première partie. On s'est intéressé, donc on s'est focalisé sur l'apprenant et sur son profil, sur ses profils, savoir comment l'apprenant fonctionne, s'intéresser du moins à son propre fonctionnement, et à travailler sur le contrat d'apprentissage comme document de base pour démarrer. Pour prendre conscience de ce que l'étudiant attend de ce cours, et proposer nous-mêmes notre pédagogie, notre manière de travailler. Donc lui demander certaines choses et en même temps lui proposer certaines choses.
Ouais, c'était l'occasion d'accorder un peu les violons entre le prof qui sera un peu chef d'orchestre mais musicien aussi, et puis les apprenants en face.
Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était vraiment la première partie. La deuxième partie, on a travaillé sur tout ce qui est la des techniques d'animation de classe avec ce public adulte et débutant pour les rassurer, pour les valoriser, pour les débloquer. Voilà, on a revu des activités, certaines activités théâtrales, mais aussi des activités non théâtrales, bien sûr.
Et on était toujours en lien d'ailleurs avec ce premier contrat, puisque tu nous as beaucoup parlé des différents profils d'apprenants, des intelligences multiples, et donc d'essayer de varier comme ça un peu les techniques pour correspondre un peu à tous les profils. C'était assez intéressant de voir ça, parce que justement, ces intelligences multiples, moi je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça, ça revient maintenant assez souvent dans les formations, et j'apprends beaucoup avec ça.
D'accord, et c'est vrai qu'on a travaillé dessus, surtout sur la troisième partie justement, où on a cherché à voir un petit peu comment expliquer, j'aime pas ce terme, finalement c'est pas expliquer, c'est faire comprendre par différents biais, par différents moyens, en prenant conscience de ces intelligences multiples et de toute la diversité de l'être humain, sans spécifier, sans forcément cadrer que tel élève est un élève visuel, tel autre auditif, tel autre kinesthésique, mais prendre conscience de ces différentes approches pour pouvoir toucher un maximum d'élèves et les aider à comprendre en diversifiant les approches.
Voilà. Ouais, c'est amusant parce que c'est ce que disait Pauline en disant on a souvent tendance à catégoriser et à avoir des images assez figées de nos apprenants, alors que eux, comme nous, finalement, on évolue perpétuellement, on est tout le temps en mouvement, et c'est bien de se diversifier pour ça, justement, pour s'adapter.
Et ils sont très doués pour nous étonner, en fait. On passe notre temps à être étonnés par, tout d'un coup, un savoir-faire qui naît, un fonctionnement qui n'est pas forcément le nôtre, et je pense qu'il est accepté comme tel, et le prof doit savoir s'adapter à l'ensemble des participants, à l'ensemble des éléments de sa classe. On n'enseigne pas qu'à un cours, on enseigne aussi à des individus dans ce cours, dans ce groupe. Et donc, c'est pas toujours facile que de gérer toute cette diversité d'âge, de niveau, mais aussi cette diversité de profil, de public, avec des apprenants qui n'ont pas la même manière d'appréhender, dans notre cas, la langue.
Ouais. Alors effectivement sur le contrat d'apprentissage, eh ben on a vu un exemple ensemble, on l'a complété, etc. C'était une formulation assez positive à chaque fois de ce que chacun doit faire et peut-être ne pas faire, mais en tout cas on mettait pas de négation dans la formulation. Et c'était quelque chose que tu proposais de mettre en place très vite en fait quand on commence le cours, pas très vite dans l'apprentissage, mais aussi très vite quand on commence avec un groupe. Hein.
Enfin oui et non. Si on commence son tout premier cours avec le contrat d'apprentissage, on va peut-être être trop peu dans l'action et trop dans la réflexion, comment nous allons travailler, comment nous allons enseigner. Je pense que ça doit arriver très vite, c'est-à-dire que ça doit arriver dans le premier cours, mais peut-être qu'une première activité de dynamisation, de première activité brise-glace, va tout de suite, par exemple, montrer aux apprenants, sans avoir à expliquer, va montrer aux apprenants notre pédagogie, notre manière de travailler. Tout de suite, si on demande aux apprenants de se mettre en cercle, de se présenter avec un geste par exemple, l'apprenant va se rendre compte que dans notre classe, les apprenants se lèvent. Les apprenants peuvent être amenés à participer en grand groupe ou en petit groupe, etc., etc. Et donc c'est des choses, peut-être ça peut être intéressant de faire une ou deux activités qui introduit le cours à la leçon zéro, à toute première leçon, puis d'enchaîner avec le contrat d'apprentissage. Parce que comme ça, le contrat d'apprentissage aura une valeur à partir de quelque chose de vécu, et pas uniquement un concept que l'apprenant peut-être ne comprendra pas. Ça veut dire quoi, être debout, tous en cercle, et faire quelque chose, et être actif, et être acteur de son apprentissage, etc. C'est des mots qui sont parfois un petit peu lointains de la réalité de l'apprenant. Alors que si tout de suite on l'a mis dans cette situation, et qu'on en parle après, ils comprennent.
Ouais, tout à fait. Et après, effectivement, tu nous as lancé sur les activités pour dynamiser son groupe et tout ça, mais il y avait un aspect très important, c'était de donner les consignes. Et on s'est aperçu que c'était quand même vraiment difficile de donner des consignes claires, compréhensibles, et tu nous as donné tout un tas de petits trucs pour pouvoir donner des consignes claires et qu'une activité fonctionne, parce que, comme tu le disais, quand une activité est lancée avec des mauvaises consignes,
on peut pas facilement la rattraper. Alors les grands principes un peu qu'on doit garder en tête pour bien formuler une consigne, ce serait quoi pour toi?
Déjà qu'elle soit claire et courte, je pense que c'est la première chose, de ne pas rentrer dans de l'explicatif, dans des consignes complexes et trop précises. Alors, ça doit être précis, mais qui dit précis ne dit pas forcément donner un maximum de précision et de particularité et noyer finalement trop d'informations tue l'information. Et si on veut trop en dire, les apprenants ne vont plus forcément comprendre, surtout avec un niveau comme ça, débutant, grand débutant. Donc, utiliser d'autres supports que la voix et que la pure explication, et utiliser, donc on a vu là dans l'atelier par exemple, des images. Ou des gestes, bien sûr, mimés. Et je pense que le prof investi, le prof qui ose faire l'activité sans prendre, bien sûr, toute la place, mais qui ose, avec un apprenant, se mettre en jeu, surtout quand ce sont des activités d'oral, ça va favoriser, bien sûr, la compréhension de la consigne, mais ça va aussi donner envie aux apprenants de participer, parce qu'ils voient le prof investi. Ça lui plaît, et ce qu'il fait, et là on a tout un désir mimétique de vouloir nous aussi, autant qu'apprenants, atteindre cette maîtrise parfois du geste ou de la langue quand l'enseignant s'est investi dans l'activité et a montré, à participer. Voilà, donc une consigne, je pense que c'est une consigne qui se montre, une consigne qui se joue, une consigne qui se mime. Ça peut être aussi des consignes sonores, ça peut être un son, une musique, un cri, quelque chose un code gestuel, un élément qui soit immédiatement repérable et identifiable par les apprenants, comme quand j'entends ce son ou quand je vois ce geste, ça veut dire qu'on me demande de faire ça ou de faire ça.
Ouais. Et un autre aspect aussi dans la diversification des activités, c'était le fait de faire le bilan parfois aussi avec les apprenants pour qu'ils apprennent, alors moi c'est ce que j'ai retenu, à mieux se connaître aussi en tant qu'apprenant, et puis nous à mieux les connaître, à mieux les comprendre aussi pour par la suite proposer des activités adéquates. Hein. C'est un peu ce que j'ai
Tout à fait, c'est ça. C'est de prendre conscience de la diversité, de toute cette diversité présente dans la classe, et en faire une force en fait. Parce qu'on peut se retrouver bloqué face à un groupe très hétérogène, à se dire bon, ils ont des niveaux très différents, ils ont une vision de l'enseignement aussi parfois très différente. Certains pensent que apprendre c'est ça, d'autres pensent que c'est complètement autre chose. Ils ont des motivations différentes, donc dans toute cette diversité, finalement, si on s'intéresse un petit peu plus particulièrement aux apprenants, on peut utiliser cette diversité comme une force et faire des clins d'œil finalement à un tel ou un tel qui a tel objectif, un tel qui fonctionne de telle manière. Alors on lui dira, au lieu de dire tu vois, on pourra peut-être davantage l'amener ce qu'on cherche à lui faire comprendre par autre chose qu'une image, parce que c'est pas qu'il n'a aucune mémoire visuelle, mais c'est qu'il a peut-être une autre manière, un autre fonctionnement, et qu'il aura besoin de... Donc là, on retouche aux intelligences multiples, intelligence intrapersonnelle, par exemple, de se concentrer, d'être seul, de ne pas forcément être dans l'activité. D'autres qui vont être besoin d'être vraiment en interaction avec les autres pour comprendre. D'autres qui vont avoir besoin de toucher, de manipuler, de faire. Donc, arriver à découvrir toute cette diversité pour finalement, mais c'est ce qu'on fait tout le temps, diversifier les pratiques, diversifier les approches, et arriver à enseigner et à s'adapter à cette diversité.
Et puis aussi mieux respecter ses apprenants, dans le sens où parfois on a envie de les forcer un peu à faire des activités, et là
dire comme ouais, si, c'est tout,
il est comme ça,
ça
et sûr, il a sûr. Besoin d'être dans sa bulle un moment.
Tout à fait.
Et alors sur la troisième partie, donc c'était faire comprendre autrement, et alors là tu nous as donné tout un panel pour pouvoir avoir plein d'outils en tant que prof pour essayer de faire passer une notion, de faire mémoriser quelque chose, tout un tas de choses sur la chanson et tout. On utilise utilisant la chanson, en utilisant des jeux, en utilisant des dés, des activités théâtrales, bien sûr, hein, tout ça. Et on se dit que c'est quand même super dur d'être prof, parce qu'il faut, il faut quand même maîtriser beaucoup, beaucoup de choses, non ?
Ben, nous aussi, on a des profils très variés, en fait. Hein. Mais ça vient aussi, on a chacun notre... Je pense qu'on a, on a chacun notre manière d'enseigner aussi. Il n'y a pas une activité, ne fonctionne pas pour tous les profs. Il y en a qui vont se sentir plus à l'aise dans des jeux, d'autres qui vont se sentir plus à l'aise dans une approche différente. Et justement, chercher, se former toujours et chercher différentes approches, ça permet de voir aussi qu'est-ce qu'on préfère, où est-ce qu'on se sent le plus à l'aise. Parce qu'encore une fois, si l'enseignant prend plaisir, prend goût, et c'est pas forcément s'amuse, mais les apprenants vont sentir qu'il est, il est à l'aise dans cette manière d'enseigner, et ça marchera. Ouais. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Par exemple, juste une petite anecdote. J'étais récemment dans une formation de formateur que j'ai suivi pour la première fois en tant qu'apprenant de théâtre en langue étrangère, pas que français, à l'université de Grenoble. Et la personne, Philippot, qui travaille à Grenoble sur le théâtre, lui a une approche complètement différente que la mienne, c'est-à-dire qu'il part de l'oral, en pensant que les apprenants ont un blocage davantage corporel, ils n'osent pas bouger, donc on va parler d'abord, on va d'abord commencer par sortir la parole, et puis plus tard le geste reviendra. Moi j'ai complètement l'inverse, c'est-à-dire que je pars du geste, et le geste va débloquer petit à petit la parole face à ce blocage langagier, je trouve pas les mots, donc je fais des gestes pour. Et ce qui était très intéressant, de confronter les deux approches, c'est que au final, donc on se bat non plus, hein, chacun avançait son opinion. Et puis au final, la co-animatrice disait, ben Adrien, toi, c'est ton truc, tu es complètement à l'aise avec le geste, et donc ça va marcher. Les activités que tu vas proposer du geste à la parole vont marcher. Mais Philippot, lui, ça va marcher aussi de la parole au geste, parce que c'est comme ça qu'il le fait. Et le prof, quoi qu'il fasse, quel que soit son approche, finalement, ça va fonctionner s'il y croit lui-même, s'il est lui-même investi, et s'il arrive à communiquer cet enthousiasme qu'il a, et ça deviendra aussi une réalité pour les apprenants. Voilà.
Ouais. Et pour les profs, hein, il faut aussi tenter des fois de sortir un peu de sa zone de confort, parce que tout comme les apprenants, on peut peut-être aussi se trouver des habiletés, des capacités, des plaisirs qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'on avait des a priori sur des activités.
Hein. Tout à fait.
Adrien, merci beaucoup pour cette formation, et merci beaucoup après cette longue journée d'avoir bien voulu répondre à mes questions. C'est très sympa de ta part. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial ?
Alors pour l'instant toujours sur le blog théâtre-fleu.blogspot.com. Alors c'est là encore une fois l'idée, c'est d'ouvrir à autre chose que du théâtre. Petit à petit, je suis en train de travailler sur des projets éditoriaux, notamment diverses qui sortent du
diverses et nombreux.
Et nombreux, c'est vrai. Je travaille aussi avec RFI à la radio, je fais des publications pour Le Français dans le Monde à partir du nouveau 400e numéro. Là, je vais m'occuper de 3 nouvelles rubriques. Donc je cherche en ce moment, c'est vrai, à me diversifier, à sortir un petit peu du pur théâtre en FLE. Donc pour l'instant, c'est toujours théâtre-fleu.blogspot.com, mais bientôt il y aura un nouveau nom de domaine qui regroupera et des activités théâtrales, bien sûr, mais aussi toutes les autres approches et formations disponibles à distance ou en présentiel. Donc ça sera, je ne donne pas encore le nom de domaine, mais ça, très bientôt il y aura une redirection aussi pour s'ouvrir au-delà du théâtre, pour continuer ces échanges, ces partages qui sont super enrichissants, et ça c'est quelque chose à souligner. Les formateurs de formateurs, on s'enrichit en permanence, et ça, aujourd'hui ça a été fantastique parce que il y a eu énormément d'échanges, énormément de partages. On a fini l'atelier où chaque groupe s'est mis à faire des propositions, et ces propositions, moi j'ai un petit calepin là, Moleskine, que j'aime bien, et je note toutes les idées des profs, et il y en a eu beaucoup. Donc merci aussi pour votre participation.
Merci à toi, et à bientôt alors.
À bientôt.
Et voilà, c'est tout pour Adrien. Encore un grand merci à Christophe pour avoir organisé cette formation très intéressante. Un grand merci à Pauline parce qu'elle a bien voulu répondre à mes questions après une journée de formation fatigante. Et un grand merci à Adrien aussi, hein, qui, en plus d'avoir animé toute la formation, a passé un peu de temps avec moi. On s'arrête là pour ce numéro des Agités en Vadrouille. Vous pouvez bien sûr continuer la discussion, poser des questions sur le blog Agito dans les commentaires, mais vous pouvez aussi laisser des commentaires sur SoundCloud à la
seconde près si vous avez des questions. Et puis pour nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas tout simplement à nous laisser des commentaires, eh bien, sur iTunes, sur PodCloud, sur les différents réseaux sociaux. On sera ravis de vous répondre. Encore un grand merci à tous les participants, un grand merci à vous les auditeurs pour tous vos nombreux retours. On se dit à bientôt pour de nouveaux numéros et d'ici là, eh bien, bon cours et bonne classe.